sur Europe 1.
Et une belle fin de journée à l'écoute d'Europe 1.
Les humanitaires, qui étaient autrefois des personnes inviolables et sacrées, sont devenus au fil des ans des victimes prioritaires.
Sept humanitaires français et leur accompagnateur victimes d'un groupe terroriste au Niger. Leur organisation ACTED décide de porter plainte. Le parquet antiterroriste de Paris se saisit également du dossier. Tous les détails dans un instant.
Au Liban, la rue a eu raison du gouvernement. Le Premier ministre libanais doit annoncer dans une demi-heure la démission de son cabinet après trois jours successifs de manifestations contre le pouvoir en place.
Cette fois, ça y est, le port du masque est obligatoire à Paris, mais pas partout.
Je me posais justement la question de savoir, est-ce que j'étais dans une rue où il est obligatoire de porter le masque. C'est pas un effort incommensurable. S'il faut en mettre un, j'en mets un.
Les Parisiens ont quand même un peu de mal à discerner les zones concernées. Dans ce journal également, de nouvelles mesures pour venir en aide aux professionnels du tourisme. Les magasins de souvenirs pourront bénéficier d'exonérations de charges.
C'est une année blanche, c'est une saison blanche. Se lever le matin en sachant qu'on va faire 15% de notre chiffre, c'est difficile.
Bruno Le Maire était à Lourdes aujourd'hui pour annoncer ce soutien aux professionnels. Reporters sans frontières proteste contre la condamnation d'un de ses représentants en Algérie. Khaled Drareni a été condamné à 3 ans de prison ferme. Et puis la Bourse de Paris termine en hausse de 0,41% à 4909 points.
Et peut-être l'information la plus importante pour beaucoup de nos auditeurs ce soir, la météo. Bonsoir Marlène Duré.
Bonsoir François, bonsoir à tous.
Et la tendance pour demain tient en deux mots, canicule et orage aussi.
Oui, et on tient bon jusqu'à jeudi François, parce qu'à partir de vendredi on va pouvoir respirer à nouveau. En attendant, l'air chaud se maintient sur le pays demain et ce malgré les averses orageuses attendues dans de nombreuses régions. La carte de vigilance reste en vigueur. Orange dans 54 départements, 12 en rouge. Et je vous en dis plus dans quelques minutes.
Eh bien, nous vous attendons, Marlène Duré.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
François Claus, Lionel Gougelot.
C'est donc bien une attaque terroriste qui a visé hier les humanitaires français au Niger. 7 membres de l'organisation ACTED et un guide, victimes d'un groupe armé à 60 km seulement de Niamey. L'attentat a eu lieu alors que le groupe participait à une excursion touristique dans un parc naturel. Bonsoir Pauline Jacquot.
Bonsoir.
À Paris, aujourd'hui, les responsables de l'association humanitaire ont livré les premiers détails sur ce drame.
Ah oui, cette attaque qui a tué 4 femmes et 4 hommes âgés de 25 à 50 ans. ACTED qui précise que ses employés sont partis de Niamey à 8h30 dimanche matin en direction du parc de Kouré. Ils confirment leur arrivée, comme le veut le protocole, 1h30 plus tard. Puis à 11h30, l'ONG est alertée, affirme la directrice générale Marie-Pierre Calais. Les 8 personnes à bord du véhicule ont été la cible d'hommes à moto.
En début d'après-midi, nous avons été informés par les gardes forestiers qu'un véhicule d'ACTED avait été retrouvé calciné. En liaison avec l'ambassade, un véhicule Barkhane et une ambulance ont été envoyés sur place. Ils ont trouvé 8 corps et les ont rapatriés à l'Institut médico-légal de Niamey dans la soirée.
Les corps sont alors identifiés. Il s'agit bien de 7 membres d'ACTED et d'un accompagnateur du parc de Kouré.
Alors, le paradoxe tragique dans cette attaque, Pauline, c'est que ces humanitaires se trouvaient dans une zone pas si dangereuse, en tout cas sur le papier.
Oui, il s'agit effectivement d'une zone classée jaune par le ministère des Affaires étrangères. Jaune, ça veut dire vigilance renforcée, mais déplacement possible. Le point de départ, la route et le point d'arrivée. Tout le trajet de Niamey à Kouré était donc classé jaune. Il était aussi très emprunté par les expatriés, selon Frédéric de Saint-Cernin, directeur général délégué d'ACTED.
Nos jeunes humanitaires sont morts dans cette zone jaune, une zone où l'on pouvait aller, je dirais, de manière assez classique quand on avait besoin de repos. Les humanitaires, ce sont des gens qui travaillent au-delà de tout horaire. Et le dimanche, quelquefois quand on peut, on se repose.
Alors, Pauline, le parquet antiterroriste à Paris s'est saisi du dossier et ACTED également, de son côté, va porter plainte.
Oui, pour éclaircir les circonstances de l'attaque, a dit l'avocat de l'ONG cet après-midi, que les familles puissent savoir est-ce que c'était une attaque planifiée ou en revanche une attaque dite d'opportunité. ACTED, de son côté, semble pencher pour la deuxième option. Il pourrait s'agir, selon ses responsables et ses porte-parole, d'une attaque fortuite.
Merci Pauline Jacquot. Cet après-midi, les responsables d'ACTED se disent dévastés par ce drame, on l'imagine. Frédéric Roussel, cofondateur de l'organisation, déplore que ces humanitaires soient devenus désormais des cibles dans les zones où ils interviennent.
La communauté internationale demande aux ONG de prendre des risques pour aider les gens à ne pas mourir de faim, de soif, de maladie, dans des conditions atroces. Et de l'autre, je constate que les humanitaires, qui étaient autrefois des personnes inviolables et sacrées, sont devenus au fil des ans des victimes collatérales. Depuis de nombreuses années, les ONG et leur personnel, national et international, sont devenus des victimes prioritaires. Donc nous sommes passés d'inviolables et sacrés à dommages collatéraux et maintenant à victimes prioritaires. C'est tellement plus facile de s'attaquer à un humanitaire qui nourrit un camp de réfugiés et qui empêche les enfants de mourir de faim avec son t-shirt, sa petite chemise et sa voiture que de s'attaquer évidemment à une base militaire ou etc.
Frédéric Roussel, cofondateur d'Acted.
Et nous serons dans une dizaine de minutes avec la géopolitologue Anne Giudicelli en direct pour essayer de comprendre les racines de ce terrorisme sahélien si particulier qui marque clairement des points ces dernières heures. Au Liban, on s'y attendait après une succession de défections de ministres. 6 jours après la catastrophe du port de Beyrouth, le Premier ministre libanais s'apprête à annoncer tout simplement la démission de son gouvernement.
Ouais, un gouvernement qui n'a donc finalement pas résisté à la pression populaire depuis vendredi. Les rassemblements et les manifestations, parfois émaillées d'affrontements avec la police, étaient devenus quotidiens à Beyrouth. On va retrouver sur place notre envoyé spécial Nicolas Feldman. Nicolas, on peut dire que c'est une première victoire pour ceux qui demandaient le départ des dirigeants.
Oui, effectivement, le résultat est bien des manifestations de ce week-end. Et ce soir encore, des centaines de Libanais affluent devant le Parlement. Alors vous le disiez, rien n'est encore officiel. Le Premier ministre doit prendre la parole d'ici moins de 30 minutes. Mais déjà, après le départ donc du gouvernement de 5 ministres, d'une dizaine de députés, les assauts symboliques aussi de samedi contre des ministères, pour Théa, un grand pas a été franchi.
C'est une première victoire. Mais cette première victoire, c'est une première fois dans toute l'histoire. On a pu prendre tellement de ministères, on a pu se faire écouter parce que normalement on est un peuple silencieux. Mais là, il faut juste qu'on n'ait pas peur et qu'on continue à aller tout droit.
Aller plus loin pour Lamia, une autre manifestante croisée ici. Cela veut dire du sang neuf pour diriger le pays.
Les gens qui devraient se présenter, les candidats que nous voulons avoir dans notre gouvernement devraient être issus du peuple. Ils doivent nous représenter, nous, l'opinion publique du Liban.
Et pour faire entendre la voix du peuple, Lamia, comme tant d'autres, promet de rester ce soir mobilisé dans les rues de la capitale.
Nicolas Feldman, envoyé spécial d'Europe 1 au Liban.
L'actualité en France ce soir, bon gré, mal gré, les Parisiens vont donc devoir s'y faire. Le port du masque obligatoire dans l'espace public est entré en vigueur ce matin dans certains secteurs de la capitale.
Des rues étroites, les zones touristiques, les quais de Seine, au total une centaine de rues. Alors évidemment, ce n'est pas bien évident, en pleine canicule, de porter ce masque. D'autant que, d'après ce que vous avez pu observer, Victor Delande, les touristes et les Parisiens ont un peu de mal à s'y retrouver.
Oui, il devait y avoir des panneaux de signalisation pour bien indiquer les zones où le port du masque est désormais obligatoire. Mais je dois avouer que j'ai dû bien chercher pour trouver quelques panneaux. Monique fait partie des bons élèves, elle le porte, mais là, elle est un peu perdue.
Je me posais justement la question de savoir, est-ce que j'étais dans une rue où il est obligatoire de porter le masque ? De toute façon, je ne sais pas quelle est la bonne solution. On me demande de porter le masque, ce n'est pas un effort incommensurable. Bon, c'est sûr qu'il fait chaud, on préférait ne pas en mettre. S'il faut en mettre un, j'en mets un, ça, il n'y a pas de problème, j'en ai toujours dans mon sac. Bon, voilà, c'est sûr, mais il faut le faire.
Lydia et Elisabeth, masques chirurgicaux sur le visage, sont vraiment étonnés, un poil énervés même contre les Parisiens qui ne respectent pas bien les règles.
Je pense qu'on va retourner dans le confinement, parce que les gens ne font pas attention, ils le cherchent aussi. Je disais à la dame, parce que justement on a vu 2-3 personnes avec qui le portaient là. En dessous du nez, ça ne sert à rien.
Il faut continuer, il n'y a pas de raison.
Voilà, surtout porter le masque, voilà, surtout.
Pendant 2 semaines, la mairie de Paris promet une certaine tolérance, le temps que tout le monde adopte ces nouvelles règles. Au-delà de ce laps de temps, il en coûtera 135 euros d'amende aux étourdis et aux réfractaires.
Merci Victor Delande. J'ajoute que la circulation différenciée en Ile-de-France sera levée ce soir à 20h. La qualité de l'air s'étant améliorée après un pic de pollution à l'ozone qui sévissait depuis jeudi dernier.
Il est 18h09. Europe 1.
On va marquer une courte pause dans un instant de nouvelles mesures en faveur des professionnels du tourisme.
Et la colère de l'organisation Reporters sans frontières après la condamnation en Algérie d'un de ses représentants à 3 ans de prison ferme.
La suite du journal sur Europe 1, Lionel Gougeot, François Clos.
Exonération de charges et chômage partiel élargie à de nouveaux secteurs du tourisme. Bruno Le Maire annonce des mesures supplémentaires pour venir en aide aux professionnels.
À 2 jours du début du pèlerinage national, le ministre de l'économie était en déplacement à Lourdes ce matin. La cité mariale, largement pénalisée par la crise sanitaire, 70 à 80% d'activité en moins. Et le dispositif d'aide bénéficiera notamment aux magasins de souvenirs et de piété, Benjamin Péter.
Oui, parce que des boutiques de souvenirs où on peut trouver entre autres un chapelet ou une statuette de la Vierge, il y en a 130 ici autour du sanctuaire. Sauf qu'avec l'annulation de la quasi-totalité des pèlerinages, il n'y a plus grand monde, comme Bruno Le Maire s'en est vite rendu compte.
Ayant l'habitude de venir à Lourdes, l'habitude avant le 15 août ici, ça grouille de monde voilà. Et on tout est ouvert. Là, il y a très peu de monde et il y a beaucoup de rideaux fermés. Donc je pense que ça veut tout dire.
Beaucoup de commerces n'ont pas rouvert et pour ceux qui travaillent, comme Claudine Aubert, le moral est en berne.
C'est une année blanche, c'est une saison blanche. Se lever le matin en sachant qu'on va faire 15% de notre chiffre, c'est difficile. On fait des heures, on n'a plus de personnel. On fait 10 heures, 12 heures d'affilée pour pas grand-chose.
Et pour David Capen, qui n'a pu rouvrir qu'une seule de ses deux boutiques de confiserie, l'avenir est très incertain.
Sur les deux établissements, j'ai que cet établissement qui est ouvert et qui tourne, sans vous cacher, entre 350 et 400 euros par jour, où normalement on roule entre les deux établissements entre 3 500 et 4 000 par jour. Situation catastrophique, cette année ça va être une année zéro pour moi, donc c'est-à-dire zéro salaire, absolument rien à la fin de l'année. Comment va-t-on passer cet hiver ?
Alors cette possibilité d'obtenir une aide de 1 500 euros, plus 10 000 euros pour les loyers au moins jusqu'à Pâques, est accueillie avec soulagement, mais beaucoup se demandent si ça suffira, si les pèlerins, en particulier étrangers, seront au rendez-vous le printemps prochain.
Benjamin Péter, correspondant d'Europe 1 dans le sud-ouest de la France.
En Algérie, le journaliste Khaled Draréni, condamné à 3 ans de prison ferme.
3 ans de prison pour avoir couvert une manifestation contre le pouvoir en place en mars dernier et avoir donné la parole à des opposants politiques. La justice algérienne estime qu'il a porté atteinte à l'unité nationale. Khaled Draréni, représentant sur place de Reporters sans frontières et ancien correspondant d'Europe 1, était emprisonné depuis le 29 mars. Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans frontières, dénonce le caractère arbitraire de cette condamnation.
Khaled, il est journaliste. Et pour cela, il a été condamné à une peine qui est extrêmement lourde, qui, à l'évidence, est arbitraire, violente, qui est absurde et qui, très clairement, vise à faire de lui un exemple pour intimider les journalistes algériens. Certaines réactions du pouvoir algérien sur cette affaire démontrent la volonté de condamner Khaled au nom de son ouverture internationale. Le président Tebboune lui-même s'est exprimé à l'encontre de Khaled Draréni. Il l'a d'une certaine manière condamné en affirmant qu'il était un agent de l'étranger. Je pense qu'il y a là la manifestation d'un pouvoir qui est dans une spirale paranoïaque et qui laisse à penser qu'un journaliste qui travaillerait aussi pour un média, pas strictement algérien, ne serait pas un amoureux de son pays. Or, Khaled Draréni, il adore son pays.
Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans frontières, interrogé par Yasmina Katou. Critique pratiquement unanime en Europe, hein, au lendemain de la réélection du président biélorusse Alexandre Loukachenko. Nombreux sont les pays qui mettent en doute l'honnêteté du scrutin. L'Allemagne, qui assure actuellement la présidence de l'Union européenne, n'exclut pas une reprise des sanctions économiques à l'égard du pays. Seul Vladimir Poutine a tenu à féliciter son homologue biélorusse.
Et alors que les manifestations pour le moment se prolongent dans tout le pays, Paris à l'instant même publie un communiqué et appelle, je cite, à la plus grande retenue après les répressions de ces derniers jours sur les manifestations post-électorales. On va terminer, Lionel, avec un petit mot de football. Soulagement pour l'UEFA. Il n'y a pas eu de nouveau cas de coronavirus parmi les joueurs de l'Atlético Madrid qui doivent participer au tournoi final de la Ligue des Champions Lisbonne.
La découverte de 2 cas au sein du groupe madrilène avait laissé planer effectivement une menace sur l'organisation de ce tournoi final. Finalement, tous les tests effectués sur l'ensemble de l'équipe et de l'encadrement se sont révélés négatifs, Jean-François Pérez.
Oui, sans faire de mauvais jeu de mots, l'Atlético respire. Hein. Au sein du club madrilène, on attendait avec anxiété les résultats des derniers tests pratiqués ce dimanche. Tous les joueurs étaient cantonnés chez eux, y compris bien sûr les 2 joueurs positifs, l'Argentin Angel Correa et le Croate Vrsaljko qui était déjà blessé. Tous les 2 sont asymptomatiques, ils ne partiront pas pour Lisbonne avec le reste de la troupe. L'Atlético devait décoller ce soir pour le Portugal, le voyage a été reporté à demain, mardi. Soulagement aussi à l'UEFA, vous l'imaginez, dont l'obsession est de boucler cette Ligue des Champions. Un protocole sanitaire de 33 pages a été rédigé. Le match aura lieu comme prévu, a sobrement réagi un porte-parole de l'institution. Rendez-vous donc jeudi à Lisbonne contre Leipzig. Le vainqueur de ce match retrouvera peut-être en demi-finale le Paris Saint-Germain, si les Parisiens écartent l'Atalanta. La préparation des coéquipiers de Neymar se poursuit sous le soleil portugais aussi sereinement que possible. 0 cas positif dans la délégation. Le PSG qui s'entraîne dans quelques minutes. Tous les regards seront tournés vers la cheville de Kylian Mbappé, l'attaquant français qu'on espère au moins remplaçant mercredi soir face aux Italiens.
Effectivement, merci Jean-François Pérez. Encore un mot pour vous signaler que l'international français Blaise Matuidi part à la conquête de l'Amérique. Il quitte la Juventus de Turin pour l'Inter de Miami. Il ne lui restait plus qu'un an de contrat. pas en Italie. Matuidi va donc découvrir à son tour la Ligue américaine. Et puis Jean-Louis Gasset, nouvel entraîneur des Girondins de Bordeaux. Il remplace Paulo Souza dont le contrat a été rompu. Enfin, c'est officiel, le Tour de France 2021 partira de Brest en Bretagne.
En Bretagne, grande terre de vélo.
Ce devait être Copenhague, mais évidemment, tout le calendrier sportif international a été décalé à cause de la crise sanitaire.
Merci Lionel Gougelot pour ce tour complet de l'actualité. On vous retrouve à 18h30 pour les grands titres.
À tout à l'heure.
Et surtout Marlène Duré qui va nous présenter la météo. Avec Marlène, des températures qui vont finir par baisser, mais pas encore demain.
Non, et ce n'est pas les quelques averses tombées cet après-midi qui feront la différence. Elles rafraîchissent à peine l'atmosphère. Il a plu au sud de Bourges, autour de Châteauroux cet après-midi, du côté de Clermont-Ferrand, Montluçon, Saint-Étienne, au sud de Grenoble, au pied des Pyrénées. Non, il va falloir patienter encore quelques jours pour une baisse notable des températures, les maximales. C'est vrai qu'elles vont évoluer assez peu demain. Nonobstant, la chaleur régressera par l'ouest et vendredi, on ne parlera plus de canicule. En attendant, 54 départements restent placés en alerte orange, 12 en rouge. Alerte maximale, je le rappelle, dans le Nord-Pas-de-Calais, en Haute-Normandie, Picardie, sur tout le bassin parisien. La nuit va rester chaude. Les valeurs en journée seront sensiblement les mêmes qu'aujourd'hui, avec généralement 33 à 37 degrés dans l'intérieur des terres, bien sûr. 36 à Lille, Paris, Nantes, Nancy, Montauban, Montélimar, 37 à Lyon. Les régions côtières afficheront 26 à 33 degrés, 26 à Brest, 29 à La Rochelle, 33 à Nîmes. Et côté ciel, François, rapidement, le temps de ce mardi s'annonce changeant avec toujours ce risque d'ondées orageuses en matinée sur la moitié ouest, passant au stade d'averse l'après-midi ou en soirée, hein, selon les régions. Elles vont rester isolées, mais elles vont se généraliser à presque tout le pays, c'est-à-dire que le beau soleil du matin présent des Hauts-de-France à la région du Grand Est, en vallée du Rhône et dans les régions alpines, eh bien ce soleil va s'effacer progressivement pour laisser place à ce ciel chaotique.
Et on soufflera un petit peu, hein, en attendant, on ferme les volets, on met un petit drap humide,
et on s'hydrate,
on vous retrouve pour faire un petit tour à la plage tout à l'heure à 18h30, Marlène.
Europe 1. 18h18, votre grand journal du sport revient sur Europe 1 avec vous, François Claus, c'est votre invité.
On va retourner au Niger dans un instant pour essayer de comprendre ce drame qui a touché donc 6 humanitaires français et 2 Nigériens.
Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1 avec vous, François Claus, et c'est l'heure d'accueillir votre invitée, la géopolitologue Anne Giudicelli.
Bonsoir Madame Giudicelli.
Oui, bonsoir.
Merci d'être avec nous ce soir en direct sur Europe 1 pour revenir sur ce drame de la réserve de Kouré à 1 heure de route de la capitale de Niamey. Une réserve qui pointait dans une couleur plus proche du jaune que du rouge, qui était un des derniers lieux considérés comme pas trop dangereux, j'allais dire, au Niger. Ça veut dire aujourd'hui que dans cette grande zone sahélienne, il n'y a plus un seul sanctuaire qui échappe potentiellement au terrorisme ?
Malheureusement, oui, dans la mesure où il y a toujours une adaptation, évidemment, de tous les groupes armés, qu'ils soient criminels, trafiquants, terroristes. Dès qu'il y a une poche, je dirais, considérée et pratiquée par leurs cibles potentielles, eh bien celle-ci va être rapidement investie. Donc en fait, c'est un jeu de couleurs qui évolue en fonction aussi de l'évolution de la perception des brèches dans lesquelles ces groupes peuvent aller dès lors que il y a une opportunité d'action.
Alors il y a une enquête qui va être, puisque le parquet antiterroriste a été saisi, la DGSI va enquêter. Il y a des témoignages un petit peu contradictoires entre le côté embuscade préparée ou finalement très mauvaise rencontre. Est-ce que de votre côté, vous avez eu au Niger des témoignages qui viennent corroborer une thèse plutôt que l'autre ?
On est plus, a priori, mais encore une fois, l'enquête approfondie par les Nigériens autant que par les Français viendra identifier le mode opératoire et l'ensemble des éléments préexistants à cette attaque. Mais on est plus sur une attaque qui serait programmée, quand même, qui aurait été élaborée. Voilà.
Ce qu'on sait, c'est que ces djihadistes circulaient avec une moto et un mode de circulation qui est interdit justement au Niger, enfin en tout cas un peu plus au nord, parce que justement considéré comme le mode de déplacement privilégié des terroristes.
Bon, d'abord, juste une chose, c'est que djihadistes, on ne sait pas encore quel est le profil
En formulant le mot, je vais peut-être un peu vite, oui. Mais enfin, la France a été attaquée, il y a une victime qui a été égorgée.
Certes.
On trouve malheureusement des signaux qui nous rappellent ces actes les plus barbares.
Certes. Et si le parquet antiterroriste se saisit, c'est pas forcément que l'acte a été identifié comme terroriste. C'est juste c'est arrivé dans plusieurs autres affaires. Voilà. Donc, je tenais à faire cette précision. Alors, la moto, si vous avez été en Afrique, vous avez compris que la moto est utilisée dans les villes, dans les campagnes, par des familles entières. Donc c'est vrai que c'est un mode de circulation qui fait partie des déplacements de l'ensemble de la population dans ces pays-là. Hein. Ensuite, je dirais que c'est un peu dérisoire, mais on peut comprendre pourquoi il y a eu ce type d'intervention. Parce qu'effectivement, en moto, on est beaucoup plus mobile, on est moins traçable, on est plus réactif à bouger, à emprunter des terrains plus compliqués à emprunter avec des 4x4 ou les véhicules qu'ils utilisent, les Toyota qu'ils utilisent généralement. Voilà, je ne crois pas que ça ait eu une incidence dans les motivations de certains groupes à vouloir cibler des Occidentaux.
Alors, Anne Giudicelli, comment expliquez-vous ce soir que 9 ans après la première intervention militaire française au Mali, 6 ans après le déploiement de la force Barkhane, 5000 soldats, il soit aussi difficile d'éradiquer, non seulement d'éradiquer, mais de contrôler ce mouvement terroriste dans cette région qui semble, plutôt que d'être, de prendre des coups, semble se développer?
Alors c'est la problématique qu'on a d'ailleurs sur d'autres régions que seulement l'Afrique, c'est-à-dire que dès lors qu'on a des interventions armées extérieures, eh bien ça multiplie la création de groupes qui eux se positionnent en termes de résistance, où finalement ces forces extérieures vont troubler le terrain sur lequel ils avaient créé leurs ressources, trafic et autres, etc. Donc ça crée des réactions sur le terrain, ça alimente un discours anti-occidental, et au fond ça ne résout pas. C'est très important qu'il y ait une sécurisation de ces territoires-là, mais c'est très important aussi d'avoir une vraie exigence de bonne gouvernance dans ces pays-là. Et c'est clair que l'un des facteurs de développement de la violence dans ces pays-là, c'est la pauvreté, c'est le fait que les trafics ou les actions pouvant contribuer à une opération de type terroriste, elles sont rétribuées, et on trouve des jeunes gens qui s'enrôlent dans ce type de groupe parce que c'est un moyen de vie aussi. Donc c'est une problématique très complexe, très ancienne, mais qui pour le moment n'a pas été réglée, et la seule force sécuritaire peut colmater, peut déplacer les groupes, peut contribuer d'ailleurs à l'évolution de ces groupes vers des moyens plus puissants, de façon à échapper à la surveillance de ces forces locales, régionales et internationales. Mais en tout cas ne colmate pas, en tout cas ne règle pas le problème de fond.
Voire même crée les conditions de son développement, en tout cas de son déplacement, parce qu'on avait le sentiment que les soldats français au Nord-Mali avaient marqué des points très sérieux contre le terrorisme, et on voit qu'ils se développent maintenant plus dans le sud. Il y a également visiblement, Anne Giudicelli, sur le terrain, une forme de bataille et de surenchère entre les affiliés à Al-Qaïda d'un côté et les affiliés à l'État islamique de l'autre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette bataille qui joue sur le terrain, et en quoi justement elle donne un terreau supplémentaire au développement du terrorisme?
Alors, juste sur le point, ce que vous souligniez en premier, effectivement, les actions qui ont été menées au Nord-Mali ont déplacé les groupes, mais ne les ont pas anéantis. Il y a eu quelques succès sur des commandants, des lieutenants de certains groupes, etc. Mais de fait, ça déplace, ça dissémine, ça contribue à disséminer. Et à générer donc des alliances, d'opportunités qui sont liées à un développement territorial. Par exemple, le Burkina, longtemps a été épargné. Et puis, au fur et à mesure, des alliances sont créées sur le Burkina, considéré comme moins sécurisé, enfin moins pris en charge par les forces nationales et internationales. Et donc, cette base arrière s'est finalement développée en front, avec des hommes recrutés sur le terrain. Il y a une force, un groupe que vous n'avez pas cité, c'est aussi Boko Haram, qui, tout à fait récemment, a mis en place une espèce de filiale essentiellement constituée de Nigériens. Donc, on parle beaucoup de l'État islamique avec le IGS, qui est la force, le Grand Sahara, qui est en concurrence Même si les hommes s'échangent entre eux avec le GSIM, ex-Al-Qaïda, bon, ce sont des groupes...
On voit que c'est très mouvant, oui. Définition, cette mouvance terroriste. En un mot, Anne Giudicelli, la réponse, elle n'est donc pas seulement militaire, elle est politique, plus de stabilité dans ces cinq pays du Sahel, et elle doit être sociale, sinon on n'y arrivera pas.
Bien sûr, exactement. Il faut trouver cette espèce de mécanique vertueuse qui ferait que les sources, les vraies problématiques pouvant générer une explosion comme ça d'actions violentes, eh bien, puissent être traitées à sa source, à leur source, et donc, comme vous disiez très justement, une approche politique différente. Et également sociale et économique.
On voit que c'est un chantier immense et que malheureusement, donc la France qui paye de nouveau un très, très lourd tribut, mais on parle beaucoup là parce que c'est les Français. Il y a eu plus de 20 morts sur un marché au Burkina Faso vendredi. Oui. On rappelle les 81 soldats nigérians au mois de janvier dernier dans une opération également menée par des djihadistes. Et cette situation est évidemment extrêmement préoccupante. On rappelle qu'il y aura demain un conseil de défense à l'Élysée qui sera consacré d'une part au Covid mais aussi à la situation au Niger. Merci de nous avoir éclairé ce soir.
Merci à vous.
Anne Giudicelli, je rappelle que vous avez fondé Terrorisque, cette agence spécialisée dans le terrorisme international.
Europe 1. Et à suivre dans votre grand journal du soir sur Europe 1, le rappel des titres et le débat des grandes voix, François.
Et les grandes voix, on parlera du masque, hein, obligatoire sur un trottoir, pas sur l'autre. Pourquoi ?
Europe 1. 18h33 sur Europe 1, place au débat des grandes voix dans votre grand journal du soir. Avec vous, ce lundi, François Maïder Arostegui, maire de Biarritz, et Raphaël Pitti, médecin humanitaire.
Bonsoir Maïder Arostegui.
Bonsoir à tous.
Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1 ce soir. Merci docteur Raphaël Pitti d'être avec nous également.
Bonsoir, merci de me demander en tout cas de participer à vos informations.
Et on attend les questions, elles sont déjà nombreuses d'après les fiches que je reçois au 39-21 sur Europe 1. On s'interroge évidemment sur ce port du masque obligatoire désormais, allez j'allais dire, dans tout l'espace public. Mais non, justement, alors après tout, on voulait des décisions plus locales, plus appliquées, partant de la région et qui ne s'imposent pas de Paris, on les a. Mais du coup, un sentiment peut-être parfois de cacophonie, tout comme les messages autour de l'épidémie elle-même, puisque d'un côté, on nous parle de clusters de plus en plus nombreux dans notre pays, ces foyers épidémiques, mais en même temps, on a l'hôpital et les urgences qui nous disent « tout va bien pour le moment, ne nous affolons pas ». Alors on va essayer de faire le point, et vous allez essayer, madame, monsieur, élu et docteur, de répondre aux différentes questions. Je vais me tourner d'abord peut-être vers l'élu. Madame la maire, vous avez pris la décision, vous, d'interdire à Biarritz le port du masque dès lundi dernier, alors qu'il n'y avait aucun cas de Covid dans votre hôpital à ce moment-là. Racontez-nous pourquoi vous avez pris cette décision. Vous avez appelé l'ARS, vous êtes là pour protéger vos concitoyens. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre cette décision et à vouloir l'imposer ?
Alors en fait, nous sommes cette année à Biarritz avec une affluence de touristes qui est inédite. Les rues ont été noires de monde très très tôt dans la saison et il nous est apparu très rapidement que cette promiscuité pouvait être dangereuse. Alors on ne s'est pas du tout affolé puisque justement nous sommes dans une région, comme vous l'avez souligné, qui n'a non seulement pas souffert de la première vague de Covid, pas de malades hospitalisés et pas de personnes en réanimation, mais qu'à l'heure actuelle, effectivement, les indicateurs sont au vert. Il se trouve que j'ai la chance d'avoir dans mon équipe, et c'est en plus mon premier adjoint, le docteur Boudouz, qui est médecin urgentiste, donc qui en plus est en première ligne avec l'ensemble des statistiques. Mais le rôle d'un élu, c'est de protéger ses citoyens, protéger les estivants. Et donc, à ce jour, le seul moyen de protection, c'est de faire de la prévention. Et cette prévention, elle passe par l'unique moyen que nous avons, et qui est le port du masque. Donc, c'est ce qui m'a conduit et qui a conduit mon équipe, justement, à prendre les devants et à imposer le port du masque.
Du préventif, vous avez à ce moment-là, qu'on comprenne bien, nous, auditeurs, vous appelez à ce moment-là le préfet, parce que ça doit être un arrêté préfectoral, si je ne m'abuse, et vous décidez avec lui en étroite collaboration.
En réalité, il y a eu un concours de circonstances assez étonnant, c'est-à-dire que le 30 juillet, monsieur le préfet des Pyrénées-Atlantiques, Eric Spitz, est venu passer une journée de travail à Biarritz et que je lui ai demandé son avis sur le port du masque et qu'il m'a dit, écoutez, moi je vous soutiens dans cette démarche. Et que le soir même, on a appris, une fois que j'avais pris mon arrêté avec l'aval du préfet, que le gouvernement avait passé un projet de loi dans la nuit du 30 au 31 juillet, donnant justement au préfet
c'est
la possibilité.
Ça, oui, vous étiez sur la nouvelle prise de décision à la française, j'allais dire.
Enfin, on l'a fait juste avant.
Griffé-Castex, oui, vous étiez juste avant où le couple préfet-maire devient important dans cette prise de décision. Alors, je vais me tourner vers le médecin. Raphaël Pitti, vous qui avez suivi, on vous a beaucoup entendu sur Europe 1, l'ensemble de l'évolution de l'épidémie durant le printemps, vous pensez aujourd'hui, à la mi-août, compte tenu des données qu'on a, que cette mesure-là, elle est opportune ?
Alors c'est assez étonnant parce qu'il y a une grande part depuis le début dans cette affaire d'épidémie, il y a une grande part d'irrationalité au fond et c'est surtout ce discours quelquefois qui est un peu difficile à accepter pour l'ensemble des citoyens, c'est que ce qui est en dessous des Pyrénées est une chose et ce qui est au-delà des Pyrénées est autre chose. Et donc c'est un peu cette difficulté qu'il peut y avoir. Dans la région Grand Est par exemple, nous avons été celle qui a été le plus touchée, nous avons vu il y a quelques semaines une recrudescence du risque épidémique, en particulier au Luxembourg, avec l'hospitalisation d'un certain nombre de patients en réanimation. Et dès lors qu'il y a des patients qui sont atteints, c'est-à-dire que le virus devient véritablement pathogène, que le virus circule est une chose. Et ça, d'une certaine manière, cela facilite l'immunité collective. Et donc, c'est une bonne chose, dirons-nous. Et de notre côté, force est de constater, c'est ce que dit le médecin urgentiste d'ailleurs, qui est élu, que et bien évidemment, les choses sont sous contrôle au niveau des urgences. Et donc, c'est bien ça qui pose un vrai problème. Il me semble aujourd'hui que l'urgence, c'est la canicule vis-à-vis des personnes vulnérables. Elle est très importante, très élevée, et elle peut entraîner un risque pathogène beaucoup plus élevé que l'épidémie pour l'instant. Alors, ce qui me semble plus clair, c'est non pas que l'on donne l'autorisation aux différents maires de prendre des décisions en fonction de leur commune, mais c'est plutôt d'avoir une position nationale très claire en disant qu'il faut maintenir les principes de distanciation, de se laver les mains, de garder un mètre et demi de distance entre les personnes, d'éviter les réunions et surtout dans les magasins, les endroits clos, de porter le masque. Libre, je dirais, c'est pas nécessaire dès lors que ces principes soient respectés et cela jusqu'à ce que nous puissions passer au moins cet automne et cet hiver.
Oui, donc c'est un message, vous aussi, vous l'entendez de cette manière-là, préventif. Alors, Raphaël Pitti et Maïder Arostegui, nous avons un appel de Paris. C'est Patrice qui nous appelle. Bonsoir Patrice.
Bonsoir tout le monde.
Merci de participer aux grandes voix d'Europe 1 ce soir. Nous écoutons votre témoignage ou votre question, Patrice.
Alors, c'est une question et une remarque en même temps. C'est-à-dire que je n'aime pas l'idée que des gens excipent de leurs principes de liberté et qui, de fait, s'arrogent grâce à cette liberté quasiment un droit d'envoyer à l'hôpital les gens qu'ils vont croiser. Et d'un autre côté, c'est pas si simple parce que tant qu'il n'y avait pas de masques, on n'en avait pas besoin. À partir du moment où on les a importés et qu'ils sont disponibles en grande quantité, ils deviennent obligatoires. Et ça peut poser des problèmes d'acceptation dans la population. C'était l'objet de ma réflexion.
Oui, mais absolument, et c'est ce qu'on voit apparaître également, et j'imagine, Maïder Arostegui, que du côté de Biarritz, et notamment de cette ville qui très clairement revêt un caractère festif pendant l'été, ça n'a pas dû être accepté de gaieté de cœur du côté à la fois des touristes et peut-être de vos concitoyens.
Alors, dans l'ensemble, je suis quand même relativement surprise par le degré d'acceptation qui est quand même assez élevé. Nous avons beaucoup de personnes âgées qui sont résidentes à l'année, mais pas que, et qui justement, à l'occasion de l'été, accueillent leur famille, en particulier leurs petits-enfants, qui, eux, ils font la fête, ils sortent. Et c'est vrai que le concept de distanciation, ça leur est pas forcément très évident. J'ai écouté les propos du docteur Pitti, qui a parfaitement raison. C'est vrai que il suffirait peut-être de la distanciation sociale à l'air libre. Sauf qu'on s'aperçoit que dans des rues qui sont étroites ou même sur le front de mer, les gens n'ont absolument pas conscience de la question de la distanciation sociale. Et c'est ce qui nous a conduit justement à imposer. C'est vrai que c'est une contrainte extrêmement désagréable. Mais je le redis, c'est l'unique moyen que nous avons d'essayer de freiner une contamination qui, dans certaines populations, c'est ce que disait le corps médical, peut justement contaminer des personnes fragiles.
Alors, docteur Raphaël Pitti, est-ce qu'on ne paye pas, d'une certaine manière, ce qui a été le discours très ambivalent des autorités au printemps sur ce port du masque aujourd'hui, et que ça génère, comme l'évoquait notre auditeur Patrice, des mouvements au contraire de réaction, et dire « moi, ma liberté, je sais ce que je fais, pendant 3 mois j'ai été enfermé, j'ai même pas le droit de voir mes copains et de faire la fête maintenant ». C'est compliqué maintenant de faire passer ce message.
Ah oui, c'est tout à fait vrai. Il y a eu un vrai problème de communication durant la période épidémique et durant le pic épidémique qui pose la crédibilité même des politiques maintenant par rapport aux décisions qu'ils veulent prendre. On peut très bien voir le président de la République dire à partir du 1er août, le port du masque sera obligatoire. Et puis, du même coup, le premier ministre dire non, c'est à partir de lundi. On voit toute la difficulté qu'il y a dans ce gouvernement à avoir une communication claire, précise, permettant justement de rassurer cette population. La population jeune, elle en particulier, ne se sent pas vulnérable du tout. Elle considère, et les statistiques, c'est vrai, vont plutôt dans ce sens-là,
oui,
jusqu'à l'âge de 40 ans.
Elle est asymptomatique, quoi, de toute façon. Et que même et si elle
est absolument asymptomatique, elle veut profiter de la vie, elle ne comprend pas. Je pense que d'un autre côté, il y a le double discours qui est celui de dire attention à la crise économique dès la rentrée, et on ne sait pas ce que cette crise économique et cette crise sociale va engendrer, et les gens disent, au fond, nous avons un répit. Puis laissez-nous en profiter.
Vous êtes inquiet, vous, docteur Pitti, pour la rentrée ?
Oui, sur le plan économique et sur le plan social, oui, il faut l'être, véritablement il faut l'être. Par contre, sur le plan épidémique à proprement parler, nous voyons bien que si le virus circule, il n'est pas pathogène pour autant, il n'a pas les effets que nous avons eus lors du premier pic. Il faut peut-être attendre, il n'apparaît pas comme un germe, saisonnier, puisqu'il supporte, là, il continue de se disséminer, il continue de circuler alors même que nous sommes en pleine période caniculaire. Donc il est peut-être à craindre de savoir quel est son comportement lorsque le froid commencera à arriver. C'est ce qui permet pour moi, en tout cas, de penser que les principes de distanciation sont les plus importants, simplement prendre des précautions de manière à savoir un peu quel est le comportement de ce virus lorsque l'automne et l'hiver vont arriver. Ça me paraît important, et que nous passions au moins jusqu'en janvier-février. Après, nous saurons mieux comment nous comporter vis-à-vis du virus.
Ça veut dire donc très probablement un automne et un hiver masqués. On l'a bien compris. Vous êtes bien dans le débat des grandes voix d'Europe 1. Nous sommes avec Maïder Arostegui, nous sommes avec Raphaël Pitti, le médecin, et nous sommes avec vous au 39-21, notamment avec Mathieu qui nous appelle de Paris également. Beaucoup d'auditeurs parisiens. Il faut dire que Paris, depuis ce matin, 8h exactement, le port du masque est obligatoire dans certaines zones de la capitale. Alors il faut s'y retrouver un peu. Il faut regarder une carte pour voir les zones. Mathieu, vos réflexions et vos questions.
Merci François, bonsoir.
Bonsoir.
Ma réflexion. Bon, si on avait eu les masques en mars, on n'en serait pas là. Désolé de remettre le couteau dans la plaie pour le gouvernement.
Non, mais ça c'est dit, il fallait le dire peut-être, oui.
Mais je le redis, parce que quand même, c'est grave, ce sont les seuls responsables, les seuls décisionnaires, et ils n'étaient pas au rendez-vous au moment où il le fallait. Mon impression, François, c'est que j'ai l'impression que les élus locaux, avec ces arrêtés sur le port du masque, gèrent quand même pas mal aussi leur risque pénal, en imposant le plus possible et partout le masque, en se mettant un peu à l'abri, si jamais on découvrait des clusters dans ces coins-là, d'avoir dit « Ah, mais on avait quand même pris toutes les dispositions nécessaires pour dire aux gens de porter le masque ». Ma question, François, maintenant très précise, est-ce que je suis plus en danger en marchant dans la rue à distance normale et sécurisée de mes passants autour de moi, avec donc sans masque, que lorsque je m'assois en terrasse d'un café parisien, dont je viens à l'instant de quitter la terrasse, où j'ai autour de moi plein de gens qui parlent, donc qui postillonnent, donc qui toussent, qui éternuent, qui personne n'a de masque, et aucune distance de 1m50 n'est respectée entre les tables. Donc, à partir de quel moment je suis en danger ? Est-ce que je ne suis pas plus en danger à cette terrasse-là qu'en marchant dans la rue normalement, à des distances respectables de des passants autour de moi ? Je ne comprends pas cette contradiction.
pertinent. Je me suis posé exactement cette même question. Alors, on a tendance à enlever, puisqu'on va boire une consommation sans masque sur la terrasse de café, puis on le remet en marchant, alors qu'il n'y a peut-être personne autour de nous quand on marche. On va la poser au médecin dans un instant, mais je voudrais d'abord faire réagir Maïder Arostegui à la première partie de votre propos. Vous avez peur de poursuites judiciaires, madame la maire ?
Écoutez, votre auditeur, je trouve, a plutôt raison. Il se trouvera toujours une bonne âme si on découvre un cluster à la fin de l'été de dire « Mais madame le maire, vous saviez qu'il y avait cette possibilité de contamination. Pourquoi n'avez-vous rien fait ?»
Donc ça effectivement, a joué vraiment dans votre décision, à vous, par exemple ?
Ah ben oui, c'est mon premier mandat de maire. J'ai été élue le 3 juillet. Moi, j'ai à cœur de respecter mes engagements, c'est-à-dire de protéger les biarrots et les estivants. Donc c'est vrai que, vous savez, en écoutant votre auditeur, moi, il me vient cette réflexion. Quand on nous a proposé il y a 30 ou 40 ans de mettre la ceinture de sécurité dans un véhicule, on la met pourquoi ? On risque pratiquement rien, sauf si il y a un choc, sauf si il y a un accident. C'est combien de temps de notre vie d'automobiliste le choc ou l'accident ? Peut-être jamais. Là, c'est la même problématique avec le masque. On met le masque, il ne sert certainement à rien la plupart du temps. Mais il n'empêche que le jour où on pourra tomber...
L'impact sur notre vie quotidienne, de vivre toute la journée avec un masque sur la tête, de ne plus voir les gens sourire et d'attacher une ceinture en voiture n'est pas quand même tout à fait le même. Vous le reconnaissez ?
Oui, certainement. Mais au départ, quand on a mis la ceinture, c'était quand même une immense contrainte. On n'avait pas le réflexe. Et c'est vrai que le masque, c'est une immense contrainte aussi, mais ça fait partie des pratiques nouvelles qui sont évidemment tout à fait désagréables.
Oui,
mais
vous avez des gens qui vous disent « moi, je ne veux pas d'une vie demain où tout le monde sera masqué », par exemple. C'est un des arguments qui revient.
Oui, mais moi, je ne veux surtout pas une vie reconfinée dans laquelle les perspectives économiques vont être de plus en plus sombres. C'est ça aussi ma hantise, c'est que je ne voudrais pas que les acteurs économiques de ma ville, qu'on a beaucoup aidé aussi avec l'argent public, se retrouvent dans l'incapacité de travailler. Et donc, ça fait aussi partie
de économique, il est important, bien sûr.
Absolument.
On l'a compris. Alors, question pour vous, Raphaël Pitti. Remarque très judicieuse de notre auditeur Mathieu. Je m'assois sur une terrasse de café et je commande un café et un verre d'eau parce qu'il fait très chaud en ce moment. J'enlève mon masque. Il y a plein de monde autour de moi. Puis je le remets. Quand je m'en vais, il n'y a pas forcément grand monde autour de moi. Qu'est-ce que vous répondez ?
Ben, c'est que votre auditeur a raison. Il faudrait pousser les consignes sécuritaires et d'hygiène beaucoup plus loin. Dès lors que quelqu'un s'est assis sur une terrasse de café, à une table d'une terrasse de café, cette table ne peut pas être utilisée. Il faut impérativement qu'elle soit nettoyée immédiatement après son départ. L'ensemble de ce qu'il a consommé doit être isolé avec un serveur qui porte des gants, etc. Donc ça demande.
Mais ça vous paraît possible, ça, docteur Pitti il y a un processus. Par exemple, quand on a un rendez-vous chez le dentiste, ça m'est arrivé, un quart d'heure entre deux patients, on nettoie absolument tout.
Absolument.
Sur une terrasse de café, d'imaginer donc qu'il faut venir avec des gants quasiment gélifiés toutes les tables. Allez-y.
Et bien, c'est ce qui explique pourquoi je pense pas qu'il soit nécessaire de porter le masque dans l'espace public en dehors des endroits qui sont clos. Je pense que dès lors que des distances soient respectées, c'est-à-dire que les tables sont bien entre 1,50 m chacune, ça me semble bien, et que le serveur sache nettoyer la table une fois que la personne est partie.
C'est-à-dire qu'on peut identifier la table. En termes de gestes,
ça,
un peu barrière.
Absolument. Absolument. Il faut pouvoir se laver les mains immédiatement avant d'avoir à consommer et se laver les mains ou passer du gel hydrocolloïde après la consommation. Et ensuite, la table doit être immédiatement désinfectée. Alors, on peut identifier la table par éventuellement un macaron rouge, en mettant sur la table, c'est-à-dire vous ne pouvez pas vous asseoir, cette table n'a pas encore été nettoyée. C'est ce qui permet. C'est que si l'on impose à la fois le port du masque dans la rue, etc., il faut aller jusqu'au bout, sinon ça n'a pas de sens. Et encore, ça perd de la crédibilité dans les consignes qui sont données.
Et donc, oui, je crois véritablement que si on... vous passiez ce message ce soir sur Europe 1.
Oui, bien évidemment. Il est vraiment très très important que nous ayons ce comportement citoyen. Nous ne connaissons pas encore véritablement le comportement du virus sur le plan de la saison. Pour l'instant, il n'apparaît pas pathogène. Nous avons donc un élément de référence qui est très important, c'est l'hospitalisation. Pour l'instant, les hôpitaux sont relativement calmes. Il n'y a pas de risque.
Et
le virus circule.
Parlez,
c'est une bonne chose.
Vous intervenez dans le service de réanimation du CHR de Metz-Thionville, notamment. Vous l'avez rejoint en renfort pendant pendant l'épidémie. Grand merci à vous d'avoir été sur Europe 1 ce soir et d'avoir répondu aux interrogations de nos auditeurs. Ceux qu'on n'a pas pu prendre ce soir, vous inquiétez pas, il va y avoir d'autres débats sur le masque et sur l'épidémie, c'est sûr, durant l'été. Merci docteur Raphaël Pitti, merci beaucoup Maïder Arostegui d'avoir été ce soir sur Europe 1. C'était notre débat des grandes voix.
18h51, notre grand journal du soir revient sur Europe 1 avec vous, François Claus. Et dans un instant, c'est la rétro d'actu avec les reporters d'Europe 1.
Et oui, et le mystère du Foch, c'est quasiment un titre de roman. A tout de suite.
Europe 1. C'est dangereux quand même.
Aujourd'hui, il n'y a aucune indication pour la population française à acheter des masques.
Nous sommes en guerre.
Tous les patients qui sont transférés sont sous respirateur.
Il faut être efficace.
Europe 1. Rétro d'actu.
We will succeed.
Ça se propage trop vite. C'est...
Elle se dresse face au Covid-19 avec cette réplique. Vous n'entrerez pas.
Il montre la lueur au bout du tunnel.
Parce que ces deux mois de confinement nous ont marqués à jamais, parce que nous avons tous vécu cette situation du temps suspendu, nous avons décidé cet été avec les reporters d'Europe 1 de vous la faire revivre en 15 épisodes. Bonsoir Jeanne Bergaoui.
Bonsoir.
Bonsoir Alain Terzian.
Bonsoir.
Vous avez toutes les deux enquêté sur ce qui fut l'un des faits les plus marquants, les plus frappants et peut-être les plus mystérieux de cette période de confinement. On avait appelé ça le mystère du porte-avions Charles de Gaulle. Souvenez-vous, les chiffres étaient impressionnants. 1081 marins contaminés sur les 2400 membres d'équipage. Nous sommes sur Europe 1 le 23 avril et c'est le jour où pour la première fois on entend un témoignage venu de l'intérieur.
Oui, et il s'agit d'un marin contaminé par le Covid. Alors tendez l'oreille, sa voix a été modifiée pour protéger son anonymat.
On nous a mis entre guillemets en danger, à nous faire rester aussi longtemps sur le bateau. Il n'y avait peut-être que 3-4 cas, je crois, au début. Mais on n'est pas con. On sait très bien qu'à bord d'un bateau, ça ne peut pas s'arrêter comme ça. Même si c'est le plus gros bateau militaire d'Europe, l'espace est restreint dedans. On est forcément obligé de côtoyer les gens, de les croiser. On ne peut pas tout le temps être à un mètre. Même en javelisant, il suffit que quelqu'un retouche derrière, c'est recontaminé. Enfin, c'est trop compliqué. Vers le 5 avril, j'ai commencé à avoir des courbatures, toussées, mal de tête, une grosse fatigue. Et le troisième jour, j'ai perdu l'odorat et le goût. J'ai vu un médecin, je lui ai dit tout ce que j'avais. Donc il ne m'a pas mis en arrêt, mais je lui ai dit vous mettrez des gants par précaution, ils m'ont donné des doliprane à prendre, et je continue à travailler. En temps de paix, c'est le personnel qui est prioritaire, la santé du personnel. Et là, en sachant qu'on n'est pas en temps de guerre, on ne comprend pas ce qu'on foutait encore là-bas.
Document très fort qu'on entend sur Europe 1, on le rappelle, le 23 avril. Un petit mot peut-être, Hélène Terzian, comment vous êtes remontée jusqu'à lui ?
D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a tenté pendant plusieurs jours, pendant une semaine, de joindre l'un de ses marins. C'était complètement verrouillé par l'état-major. Il a donc fallu passer par des voies détournées.
Et c'est là que les réseaux sociaux sont parfois utiles. Certains proches de marins se sont indignés sur Twitter. Et c'est comme ça, en entrant en contact avec la cousine d'un marin, que j'ai finalement réussi à échanger avec celui que l'on vient d'entendre. Il a quand même fallu le convaincre de me parler.
Alors, nous sommes, rappelons-le, le 23 avril. Et cela fait deux semaines déjà que le virus est présent à bord du Charles de Gaulle.
Oui, puisque dès le 8 avril, le ministère des Armées annonce qu'environ 40 marins présentent des symptômes. C'est à ce moment-là que Florence Parly écourte la mission. Le 12 avril, lorsque le navire arrive à Toulon, donc, c'est une opération d'envergure qui est mise en place pour débarquer l'équipage. Tous les marins infectés sont transférés à l'hôpital et tous les autres placés en quarantaine dans les structures militaires de la région.
Et il faut le rappeler, en débarquant, tous les marins sont testés, ce sont finalement 1081 marins qui sont porteurs du virus.
Alors, avec bien sûr cette question, comment ce virus a-t-il bien pu arriver à bord ?
Très vite, très vite, les soupçons se portent sur une escale du porte-avions à Brest. C'est là qu'entre les 13 et 16 mars devait normalement se tenir l'emblématique Journée des Familles. Événement finalement annulé, personne n'est accueilli à bord, mais certains marins en ont tout de même profité pour sortir et passer du temps avec leurs proches. C'est le cas de Céline qui a retrouvé son époux. Elle se rappelle d'ailleurs avoir été surprise par la fermeture des bars et restaurants, puisqu'à ce moment-là, nous sommes à deux jours du confinement en France.
J'ai passé le week-end avec lui, avec ses collègues, et où on a partagé les mêmes restaurants, les mêmes bars. Justement, le samedi 14, on est allé dans un bar pour continuer la soirée, et on s'est retrouvés être mis à la porte à minuit pile. Et d'ailleurs, le dimanche, c'était très marrant, car dans les rues, on voyait que les marins et leurs familles qui erraient comme ça dans les rues en essayant de trouver une boulangerie ou une restauration rapide afin de pouvoir manger, en attendant de soit aller reprendre l'avion, soit de rentrer sur le bateau.
Alors le marin avec qui j'ai échangé me confirme qu'ils sont sortis dans les bars, dans les restaurants, sans vraiment faire attention. Au retour dans le bateau, des mesures strictes ont été imposées. Mais 15 jours plus tard, le commandement estime que la maladie n'est pas présente à bord. Résultat, les consignes se sont vraiment assouplies. Il y a même eu un concert de rock organisé dans un hangar du bateau. Sauf qu'à partir du 5 avril, beaucoup de marins présentent à nouveau des symptômes et défilent à l'infirmerie du navire.
Alors, est-ce que, Hélène Terzian, on connaît aujourd'hui l'origine de la contamination?
Eh bien oui, François, puisqu'une enquête épidémiologique a été menée, on sait que le premier cas confirmé est survenu le 28 février, c'est donc bien avant l'escale de Brest. Le virus se serait en fait introduit au cours de précédentes escales logistiques à Chypre, en Espagne, au Portugal, au moment où on transfère du personnel, où on apporte des vivres sur le navire. L'étape brestoise n'est donc pas à l'origine de la contamination, mais elle a accéléré sa propagation.
Et puis parallèlement, il y a une enquête de commandement sur la gestion de la crise. Elle ne pointe pas de faute personnelle, mais des dysfonctionnements de communication entre le commandement du Charles de Gaulle et le ministère des Armées.
Alors, question, aujourd'hui ou 3 mois après, où en est-on?
Alors, le porte-avions, il est à l'arrêt technique, en rade de Toulon, comme à chaque fin de mission, ça c'est tout à fait normal. En revanche, il a bien sûr été décontaminé. La majorité de l'équipage a regagné le bâtiment pour assurer son entretien. Et ce qui est intéressant, c'est que parmi ces militaires, certains ont défilé cette année à la cérémonie du 14 juillet. C'est le cas de Frédéric, chef du magasin aéronautique navale. Il répondait au micro de Yasmina Katou le 14 juillet donc.
Le Covid, c'est derrière. J'étais au hospitalisé et puis j'ai été guéri et me voilà ici pour représenter le Charles de Gaulle pour le 14 juillet. Nous sommes en préparation pour repartir, il faut apprendre de ce qu'on a vécu et on met en place des gestes barrières pour éviter de revivre cet épisode de Covid. Hâte de repartir. Nous sommes marins, donc un marin doit être sur l'eau.
Et de tout faire pour que cela ne se reproduise plus, on l'a compris. Quand est-ce qu'il va repartir, Jeanne, ce Charles de Gaulle?
Eh bien, la préfecture maritime nous dit qu'il pourrait reprendre la mer à la fin de l'été.
Merci à toutes les deux, Hélène Terzian, Jeanne Bergawi, qui revenaient sur le mystère du porte-avions Charles de Gaulle. Et non pas du foch, comme dit par erreur. Toutes mes excuses pour ce lapsus.
À suivre le journal de 19h, François.
Et avec Yolaine Gougelot.